des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio web qui donne la parole aux académiciens. L'historien Pierre Nora, membre de l'Académie française, connu pour ses travaux sur le sentiment national et sa composante mémorielle, est venu évoquer l'image du général de Gaulle. Image changeante au cours des 40 ans qui nous séparent de la mort du général, le 9 novembre 1970. Bonjour Pierre Nora.
Bonjour madame.
Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes éditeur aux éditions Gallimard depuis 1965, directeur de la revue Le Débat depuis 30 ans, maître des fameux lieux de mémoire, ouvrage paru entre 1984 et 1992, dont le but est de faire l'inventaire des lieux et des objets dans lesquels s'est incarnée la mémoire collective nationale des Français. Et au sein de ces travaux collectifs que vous dirigez, vos publications personnelles ont magnifiquement démontré la consécration historique, et j'emploie vraiment le mot, la sacralisation de la personne du général au fil du temps. Alors le temps, le travail du temps est un lieu de mémoire pour vous. Le gaullisme, le fondateur du gaullisme sont aussi des lieux de mémoire. Et vous écriviez en 1990, je vous cite, « L'homme d'État le plus contesté de son vivant est devenu, pour tous les sondages, 20 ans après sa mort, le plus incontestable champion toute catégorie de la mémoire collective des Français. Le plus grand diviseur national s'est transformé en dernier symbole de l'unité et du rassemblement. Aujourd'hui, Pierre Nora, si le gaullisme a sombré en douceur, le général, lui, émerge de toute sa stature. » Comment et pourquoi le regard sur Charles de Gaulle s'est renouvelé depuis son départ de l'Élysée en avril 69 et sa mort en 70, Pierre Nora? Et comment, du phénomène historique, on est passé à l'icône gaullienne française et peut-être même planétaire?
Oui, en effet, c'est un phénomène à tous égards passionnant pour un historien et qui prend d'ailleurs toutes ses dimensions si on le met probablement en parallèle avec le naufrage dans lequel a sombré le communisme et l'idée communisme en France, les deux phénomènes, le phénomène gaulliste et le phénomène communiste, ayant été, somme toute, symétriques, parallèles, contradictoires et complémentaires. Alors, sur le personnage lui-même...
Gaullisme et communisme et rien. Et puis finalement...
Oui, c'est ce que disait entre les communistes et nous, et disait Malraux, il n'y a rien. Alors, sur le personnage, c'est quand même en effet passionnant. Parce qu'il s'est, comme vous dites, sacralisé, iconifié, si j'en employais ce mot, et en même temps, d'une certaine façon, dépersonnalisé. Parce qu'il s'est à ce point confondu avec la mémoire collective des Français. Il est tellement assis dans l'histoire collective des Français que le personnage en a été totalement métamorphosé, comme vous le rappeliez que je l'indiquais. Et cette métamorphose pourrait encore se compléter de beaucoup d'autres, puisque le nationaliste qu'il était, profondément opposé à toute l'Europe, d'une certaine façon, antinationale, en tous les cas, ou fédérale, et à des idées supranationales, est devenu le père de l'Europe, en même temps que le père de la patrie. L'homme qui paraissait, à l'époque de son vécu, passéiste, incarnant une France d'autrefois, plongé dans le XIXe siècle, barésien, Péguy, tourné vers le passé...
Chateaubriand
est devenu le visionnaire du XXIe siècle. L'homme qui a anticipé tous les développements futurs, donc le futurologue, enfin l'homme du futur. Et puis, l'homme dont l'œuvre historique principale, celle de la Constitution, paraissait être la fabrication d'institutions sur mesure pour lui-même...
Oui. Le coup d'État permanent, c'est devenu notre constitution nationale.
Alors, il y a effectivement une métamorphose, et en même temps même une métamorphose, comme vous le disiez, de la personnalité, parce que l'homme le plus lointain des Français, celui qui paraissait les dominer par une sorte de mépris à la hauteur de sa hauteur, si j'ose dire, est devenu un personnage très familier, Astérix, oui, national.
Et avez-vous lu De Gaulle à la plage ?
De Gaulle,
qui a
non,
toujours des tongs,
<C'est pas lu, rire>
et qui pourtant mais... est à l'Élysée, mais on entend le bruit de ses tongs.
Voilà.
C'est plein de tendresse.
C'est ça.
C'est ça qui est nouveau.
Et je crois que le point final de cette symphonie a été effectivement le livre de l'amiral de Gaulle, que je n'aime pas beaucoup personnellement, le livre, j'entends, mais qui a contribué à le faire apparaître comme bon fils, bon père, bon mari, un être de chair et un copain, enfin je veux dire un bon papa, un bon...
Oui.
Bon. Donc il y a une sorte de familiarité du personnage. En même temps que, si vous voulez, du point de vue de son image historique, il y a eu un gommage complet de toutes les périodes d'échecs, de toutes les périodes noires.
Toutes les alacrités sont nivelées. Que sont les anti-gaullistes devenus ?
Eh bien, il y en a très peu. Il y en a très peu, à part celui que je quitte pour prendre le thé, c'était Michel Déon, avec qui je parlais et qui demeure un anti-gaulliste impénitent.
Il en faut.
Il en faut. Mais quand la phrase fameuse de De Gaulle, tout le monde a été, est ou sera gaulliste, est parfaitement exact. Alors, on peut se demander pourquoi. Je crois que c'est ça l'objet même de notre réflexion commune
oui.
ici. Alors, pourquoi et comment ça s'est fait ?
Croyez-vous que les institutions, les successeurs de De Gaulle qui s'en démarquaient, mais qui toutefois ont tout fait pour qu'ils deviennent un lieu de mémoire ?
Je crois qu'il y a eu trois grands phénomènes par lesquels l'opération s'est accomplie. Indépendamment du fait que c'est un personnage qui, par rapport à notre époque d'aujourd'hui, prend une telle grandeur que, effectivement, la majoration du personnage peut se comprendre par rapport à l'actualité. Mais, indépendamment de ça, comment ça s'est fait ? Je crois qu'il y a eu trois grands vecteurs. Le premier, c'est l'ordre de la succession présidentielle, qui a joué en sa faveur. Après lui, Pompidou,
oui.
l'homme d'affaires, le banquier
des
Rothschild,
le
Louis Philippard,
évidemment.
Et par conséquent, la dissociation immédiate et la droitisation, si j'ose dire, du personnage par le parti gaulliste, Giscard d'Estaing. Et l'image de légèreté, de bourgeoisie parisienne, d'Europe, de décrispation de l'histoire de France, c'était une expression de Giscard d'Estaing. Une histoire qui devient technocratique par rapport à un personnage pour qui l'histoire avait une profondeur... L'idée qu'il n'y avait pas de tragédie dans l'histoire, au fond, Giscard d'Estaing, c'était quelque chose... Pas de tragédie, ça se résolvait, les problèmes autour de tasse de thé, si j'ose dire. L'absence du tragique historique et l'identification à une grande histoire.
Mais c'était le contexte historique qui donnait ça, sans
oui,
doute.
Oui, peut-être. Non, mais je fais pas de reproche, mais simplement, je constate que son image, du coup, désenracinée d'une tradition française, du peuple, tout simplement, a contribué ou a permis l'envol, et puis surtout Mitran, c'est-à-dire l'ennemi, l'homme du coup d'État permanent, enfin du livre.
Il n'était pas gaulliste, mais il était gaullien.
Qui était totalement anti-gaulliste et qui a ratifié les institutions de la Ve République contre lesquelles il était jusque-là. Ça, c'est le basculement fondamental qui s'est accompagné de ce deuxième, probablement, phénomène très important, et qui a précédé le mitrandisme, qui est le ralliement posthume de la gauche à De Gaulle. Ça, c'est fondamental, parce que c'est ça qui a recollé les gaullistes et les anti-gaullistes, si j'ose dire.
Alors pourquoi se sont-ils ralliés ?
Ils se sont ralliés parce que De Gaulle n'était plus là, et que tout ce que le personnage avait d'exaspérant,
d'irritant,
oui. la façon dont il pouvait gérer l'entourage, en plus... Je crois que ça a été très profond, si vous voulez. C'est le contraste, au fond, qui touche au fond de ce que vous dites, entre les difficultés que la psychologie politique française a eues à comprendre et à assimiler le phénomène de Gaulle, et au contraire, l'enracinement d'aujourd'hui qui fait qu'on ne comprend plus pourquoi, à l'époque, on ne l'avait pas compris. Et qui
l'époque sont obligés
de s'excuser.
Voilà pourquoi j'ai pas
voilà.
compris.
La politique algérienne... n'était peut-être pas celle que l'on croit. Le Maurrassien n'était peut-être pas le Maurrassien du tout. L'homme de l'anti-république n'était pas. Et ça, parce que la gauche a très longtemps été hostile à De Gaulle, parce qu'il était militaire, d'abord, et qu'il paraissait incarner Boulanger.
Oui.
Putsch, le 13 mai. Le 13 mai. c'est-à-dire un coup d'État. Et l'homme du RPF, et l'homme qui avait voulu poser son pouvoir contre les partis. Bref, la résurrection du général Boulanger, que des gens comme Auriol ou toute la 4ème République voyaient comme tel. Donc toute la tradition socialiste, toute la tradition de gauche a été... Et je pense que le ralliement de la gauche est aussi venu de l'antigaullisme de droite, qui a été très fort.
L'Algérie, les pieds noirs.
Les pieds noirs, évidemment, et l'Algérie. Et donc tout l'antigaullisme OAS, enfin si vous voulez, tout l'antigaullisme
donc
de l'armée.
Donc l'armée un peu.
Ah, beaucoup. Toute l'armée a toujours, enfin, a longtemps été antigaulliste. Donc je crois que ça a beaucoup joué pour que cette gauche revienne sur... Peut-être que l'un des premiers d'ailleurs a été... Au moment de la mort de Gaulle, ce fameux éditorial de notre devenu confrère Marx Gallo, qui était quand même à l'époque, enfin, mitterrandien, puisqu'il était un des ministres de Mitterrand au moment de l'alliance avec les communistes. Donc il était quand même très à gauche à l'époque, et il a fait un éditorial « Sommes-nous tous devenus gaullistes ?» Pensez au livre de Régis Debray, « À demain de Gaulle ». Alors que Régis Debray n'a pas été du tout sur le moment reconnaissant à De Gaulle d'avoir tout fait pour faire libérer.
Téléphoner pour le permettre qu'il puisse être libéré, oui, évidemment. De Barrientos.
Voilà. Et quand il est revenu, il n'a pas allé remercier De Gaulle. Mais avant, non, quand il est revenu...
Il aurait pu prendre le temps, mais...
Oui, il aurait pu prendre le temps. En tous les cas, de faire quelque chose, il ne l'a jamais fait. Et c'est lui qui, tout d'un coup, voit... Enfin, et plus que gaulliste, il vient de préfacer les discours de guerre de Gaulle. Il vient de faire une conférence à l'école de guerre sur le 18 juin. Il est complètement amoureux de Cordier à travers la Résistance et de Gaulle et Jean Moulin. Et bon, il est probablement, enfin, des plus gaullistes de Gaulle. Bon, c'est, voilà une image. Autre image encore, la biographie de Lacouture. Jean Lacouture... À gauche.
Retournement.
Retournement absolu, qui fait une biographie amoureuse, presque en tous les cas très imprégnée du culte de Gaulle, alors qu'on aurait attendu un homme de droite plutôt pour faire la première des grandes biographies de Gaulle autorisées. C'est un homme de gauche qui est arrivé. On attendait Perfitte et la couture qui vint. Alors voilà des signes tangibles du ralliement de la gauche à l'image. Alors ça a joué énormément parce que ça a recollé. De Gaulle, au fond, a eu contre lui au départ la tradition de droite, la tradition de gauche. Il a eu beaucoup plus ensuite la tradition de gauche que la tradition de droite. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'à son enterrement, à la messe, enfin à la cérémonie de Notre-Dame
à Paris, oui.
Il n'y avait que deux pays qui n'étaient pas représentés. La Grèce des colonels et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors que la Chine était là, parce qu'il avait reconnu la Chine. Donc, on dirait sous la Troisième République, il est tombé à gauche. Il est mort à gauche, comme on disait des présidents de la République, il est tombé à gauche. Ça a énormément joué pour l'acculturation nationale de son image. Je crois que les manuels de classe, l'enracinement dans le paysage, combien de places de Paris qui s'appellent avenue Charles de Gaulle, rue Charles de Gaulle, place Charles de Gaulle, dans les manuels même. J'en avais repéré certains, le nom m'échappe aujourd'hui, puis peut-être faut-il pas trop le citer, qui ne parlait plus de Pétain, qui parlait qu'unique de Gaulle, comme si la France n'avait connu que de Gaulle et pas Pétain pendant la guerre.
C'est dangereux aussi.
C'est quand même inimaginable.
Oui.
C'est plus que dangereux, je veux dire. Pour... Voilà des, si vous voulez, des signes, je pense, permanents par lesquels... Alors, il y a quelque chose qui a joué, si vous voulez, très très profondément, je pense, aussi dans cette acculturation nationale, disons, nationalisation du général, c'est le caractère très syncrétique que l'image de De Gaulle a progressivement représenté.
Le rassemblement.
Oui, tous les personnages de l'histoire de France. Il est à la fois Jeanne d'Arc, Clémenceau...
Carnot.
Carnot, bien sûr. Bon, il est Louis XIV, évidemment.
Oui, et là, d'ailleurs, c'est vous qui disiez que Louis XIV, Napoléon et De Gaulle...
J'ai déjà dit ça, bon, c'est très bien.
Alors, on dit, un point commun, c'est les textes fondateurs qu'ils nous ont laissés à la postérité, après des crises qui ont failli leur coûter l'État.
Oui, là aussi, le personnage...
Vous le faites compagnonner avec Louis XIV et Napoléon, ce sont des mythes.
Oui.
Qu'ils ont formé eux-mêmes. Est-ce que De Gaulle a formé avec l'écriture, justement?
Avec l'écriture. Alors le fait, on n'en a pas parlé encore, mais c'est fondamental, le fait qu'il ait écrit et que pour un militaire, il ait été reconnu comme un écrivain, qu'il se soit voulu écrivain, qu'il se soit fondamentalement lié à des écrivains, a eu des rapports personnels entre Mauriac, Malraux, etc., qui l'ont contribué dès le départ à le littératuriser. À cet égard, je crois qu'on parlait tout à l'heure du livre de l'amiral de Gaulle comme une espèce de point de repère final. Il y a eu au moins deux grands repères littéraires avant. Ça a été le livre de Dastier de la Vigerie qui revenait de Londres et cette fois Emmanuel, oui. Qui le présentait déjà comme un personnage mythologique. Cette fois, 7 jours, ça s'appelait. Et surtout après, les chaînes qu'on abat de Malraux. C'est un trouvaille.
Qu'on trouve à Colombey parce qu'il y a de beaux arbres. Enfin, il y a toute une mythologie.
Tout y était, hugolienne quand même. Bon,
et donc, Dastier de la Vigerie, je reprends mon idée, était déjà gaulliste de gauche.
Tout à fait. Il y a eu toujours une tendance jusqu'à Roger Stéphane, jusqu'à De Gaulle de gauche. Oui, on peut dire Jean Daniel, mais ça n'a pas été le plus efficace. Michelet, qui était quand même un ministre de gauche, beaucoup plus concerné et proche. Donc il y a eu toujours, Sanguinetti, toujours ce gaullisme de gauche qui a été minoritaire, mais très important. Donc je crois que si vous voulez, oui, il faut dire en plus, puisque vous parlez de sa mémoire, que non seulement il est identifié maintenant à quelques-unes des images les plus fortes de la mémoire collective française, la guerre, l'appel du 18 juin, la descente des Champs-Élysées, les conférences de presse, ou le...
Enfin, oui, parce qu'il avait un style, une verve, avec son vol à puc, ses carterons, c'est resté, ce sont maintenant des mots que nous connaissons tous.
Exactement. Donc je crois que tout ce syncrétisme du personnage, si vous voulez, dans l'histoire et dans la réalité, a quand même énormément joué. Cette conjonction d'un militaire et d'un écrivain.
Ne pensez-vous pas aussi que le nouvel essor du mythe gaullien soit favorisé par le vide idéologique produit par les grandes mutations de notre fin du XXe et début XXIe ?
Oui, c'est là où je vous parlais, pour commencer, du communisme, qui a été la première des grandes quand même mythologies contemporaines, enfin mythologie, force idéologique contemporaine et rivale et antithétique de Gaulle. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, puisque vous parliez au moment où je faisais les lieux de mémoire.
Oui, vous avez fait un article sur le travail du temps entre communistes et gaullistes.
Voilà, qui est très curieux, parce qu'à l'époque, c'était évidemment le communisme qui nous paraissait chargé d'espoir, d'abord dépassant les lendemains qui chantent, absolument. Une énergie populaire, vitale, ouais. Fantastique, un internationalisme qui était l'avenir, une doctrine, un parti, une histoire immédiate. Et c'est l'homme seul, c'est ce militaire qui paraissait quand même marqué, même personnellement, avec sa voix de fausset, avec ce gigantisme un peu...
Des traits pas toujours flatteurs.
Des traits pas très flatteurs, enfin quelque chose qui quand même pouvait paraître très rébarbatif dans le personnage, et tout s'est retourné en sa faveur. Écoutez, évoquons sa mort, qui a été...
Simple.
En faisant quoi ?
Des réussites ?
Oui. Une réussite. Écoutez, vous, quand vous mourrez en faisant une réussite, votre vie en est une. Donc, Et il est mort. Moi, ça m'avait frappé en un quart d'heure. Imaginez s'il avait eu un Alzheimer qui n'en finissait plus.
Oui, il a tout réussi, en fait. Même sa sortie.
Mais bien sûr, tout a joué en sa faveur. Et puis, écoutez, on parle de sa mort et sa naissance quand on veut être qui il est, s'appeler Charles de Gaulle. Naître Charles de Gaulle, je veux dire. Il y a quelque chose qui dépasse la rationalité, puisque après tout, on n'est pas responsable ni de son nom à sa naissance, ni des conditions de sa mort.
C'est vrai qu'il avait un nom de destin.
Incroyable. Et c'est un nom de destin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de De Gaulle aujourd'hui qui pourraient être des poinçonneurs de métro. Le problème, c'est quand on veut être qui il veut être, de s'appeler Charles de Gaulle, c'est invraisemblable.
Il
est né avec un nom de scène. Et il est mort comme un saint rappelé tout vif à Dieu. Et donc, de cela, il n'est pas responsable, ni de sa naissance, ni de sa mort. Il y a quelque chose
qui donne une dimension, qui
est presque transhistorique, si j'ose dire, là-dedans, et qui trouble, effectivement. Donc, il a vraiment tous les attributs du grand personnage. Et je crois que c'est ce que vous disiez, pas seulement le naufrage des idéologies, mais le spectacle de la politique.
Oui, on sait bien que de nos jours, quel est l'homme politique qui paierait de sa poche les repas de famille qu'il organisait le dimanche à l'Élysée.
Voilà. Donc, sa grandeur physique peut être en parallèle avec sa grandeur morale par rapport à des petitesses physiques qui sont aussi des formes de petitesse historique. Enfin, bref, il n'y a aucun doute que là aussi, il y a une image en miroir qui fait qu'il ne peut que grandir davantage.
Il faut dire aussi qu'il avait eu forcément de bonnes intuitions, et je pense à l'Europe, avec la réémergence d'une vision européenne plus réaliste et statocentrique.
Mais bien sûr. Non, mais il a eu quelques...
Il a des fulgurances.
Mais pas seulement une fulgurance, plus que ça. Je crois personnellement beaucoup que c'est pas seulement son identification à l'idée de la France qui le caractérise et fait sa grandeur historique, mais c'est immédiatement le fait qu'il n'a conçu son action que comme inscrite dans l'histoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a voulu ? Il a voulu, comme il l'a dit lui-même, corriger le mal-être historique dans lequel les institutions de la France étaient plongées depuis pratiquement l'abolition de la monarchie. Et rétablir un équilibre troublé, comme il disait à l'époque, depuis 160 ans. Donc, ça voulait dire rétablir un pouvoir exécutif, fort, stable, qui est du prestige, et qui, par nature, est devenu de type monarchique, comme il l'a incarné par sa personne, par sa manière de gouverner, et par sa manière de gouverner jusque par sa manière de ne pas s'occuper des affaires dont le Premier ministre est chargé de s'occuper. Donc, là encore, c'est un syncrétisme tout à fait particulier du personnage. Parce que d'un côté, il est la grande histoire, il est le rêve, une certaine idée de la France, et tout, et de l'autre, il a été probablement l'homme qui a enraciné la croissance française à travers le Premier ministre Pompidou, celui qui a été le plus réaliste pour faire des autoroutes, faire des téléphones. Il y a deux de gaullisme. Il y a un gaullisme de rêve politique et il y a un gaullisme d'empirisme technocratique qui a été très important. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, et qui est aussi fondamental que le ralliement de la gauche. C'est l'attitude de la droite, c'est-à-dire qu'il a lavé une certaine droite du péché de la défaite et de la collaboration, qui était discréditée complètement, et il a en quelque sorte exonéré la droite traditionnelle de son anti-républicanisme de tradition. À ce titre, il a très certainement facilité le ralliement définitif de la droite contre-révolutionnaire à la République. Du point de vue de l'effet en profondeur sur l'histoire de la France, c'est capital.
Il a tracé un vrai sillon
parce
profond.
Parce qu'il a permis le disons, le ralliement, entre guillemets, de la droite antirépublicaine à la République à travers le gaullisme. Ça, c'est fondamental, si vous voulez. C'est ce qui a certainement...
C'est le socle.
C'est le socle, exactement. C'est le socle. Alors, à cet égard, il a vraiment marqué, par la Constitution et par son action historique, un avant et un après dans l'histoire de France. C'est le phénomène politique qui a le plus profondément marqué et qui a été le plus, à la fois, le plus mal compris parce qu'il était d'une étrangeté totale par rapport aux traditions de gauche, de droite, de la politique française. Il a été complètement anomique, si vous voulez. Alors, à cet égard, on peut comprendre qu'on ne l'avait pas compris. Un homme comme Mendès France ne l'a pas compris. Et l'hostilité, le refus du ralliement en 58, l'hostilité de Mendès à l'élection du président de la République au suffrage universel en 62, c'est une erreur totale. Ce sont deux erreurs de Mendès, qui est lui aussi dans un autre genre sacralisé. Mais il a fait deux erreurs fondamentales. Il n'a pas compris que, en 58, que c'était De Gaulle la bonne solution. Il l'a pris pour un
oui, et en 62,
boulanger. Et en 62, il recommence.
Il recommence.
Bon, alors, c'est vous dire à quel point, pour qu'un homme aussi intelligent que cela...
Oui, parce que c'est aussi une histoire de caractère, de personne.
Oui, mais enfin, il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Il était difficile à comprendre. La nouveauté du personnage historique...
À supporter.
Non seulement lui, mais ses partisans. C'était une courtisanerie telle qu'être gaulliste, pour beaucoup, c'était être des courtisans. Et pendant son vivant. Donc je comprends que beaucoup d'hommes de gauche n'aient pas pu beaucoup se rallier. C'était un espèce de De Gaulle un peu imaginatif et imaginaire que la gauche gaullienne...
Et méprisant. Et donc c'est pas facile.
Totalement
oui.
Méprisant.
Donc,
oui.
Donc comment voulez-vous qu'on se fasse
voilà.
Séduire par
voilà.
Un personnage
donc,
comme
donc
ça
donc à tous égards, si vous voulez, on peut comprendre que le phénomène ait été difficile à prendre. Je crois qu'il a fallu un certain recul pour que son importance historique majeure apparaisse. Non, le mythe gaullien, qui est le titre de l'excellent ouvrage de Sudhir Hazarising, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier récemment,
que je conseille à tout le monde,
et que je recommande à tout le monde, et qui d'ailleurs renouvelle un peu l'analyse de ce mythe par une source historique, par exemple très neuve, qui est la correspondance, qui a été ouverte à l'Institut Charles de Gaulle. Ah, j'oubliais de dire que dans les motifs d'installation de l'image gaullienne, l'Institut Charles de Gaulle a joué un rôle capital.
Capital.
Dans l'institutionnalisation militante du personnage, il n'y a aucun homme politique qui ait eu un tel instrument de propagande, si je peux employer un mot.
Alors, il y a l'Institut Bonaparte, Napoléon Ier, Premier
oui,
Empire,
oui.
Et l'Institut de Gaulle.
Oui.
Donc on ferme la boucle. Mais
alors
je pense
le livre d'Hazarising, on oui. Disait, le mythe s'appelle en effet le mythe gaullien. D'ailleurs, je ne le cacherai pas sur mes pressions et conseils, parce qu'il hésitait, en excellent historien qu'il est, Hazarising hésitait parce qu'il croyait que le mythe allait vouloir dire le mensonge. Mais De Gaulle, c'est De Gaulle lui-même qui l'a dit.
Oui.
Perfit le rapporte dans son livre sur De Gaulle, c'était De Gaulle, que De Gaulle avait dit à maintenant j'oublie qui, au sortir d'un conseil des ministres, et qui, ou, je crois que c'était même en 62 ou en 65, je ne sais plus exactement, vous... Après moi, vous verrez le mythe. C'est en ce sens que ça veut dire. Mais ça veut dire que je deviendrai un mythe.
Oui, mais un mythe, c'est aussi un récit sacré qui n'est pas forcément que de la fabulation. Il peut y avoir des fantasmes,
bien
mais
sûr.
Il n'y a pas que ça. Et ça donne de l'énergie.
Et puis, plus que ça, je pense qu'au sens premier du mot, c'est un récit des origines.
Commencement.
Oui. Or, De Gaulle a voulu être un recommencement de l'histoire de France, depuis, je ne parle pas depuis toujours, mais quand même un moment de renouvellement intense dans un moment de défaite qui était la plus grosse de la défaite historique, de la défaite de la France. 1940, on oublie l'abîme, mot que très souvent d'ailleurs ces historiens emploient pour parler comme du Rosel de 1940. Donc il a effectivement sorti l'image de la France et la France elle-même de l'abîme. Et il a deux fois rétabli la République, une fois en 1945 et une fois en 1958. Alors ça fait quand même un personnage composite extraordinaire et d'une inépuisable saveur que lui-même a su exploiter en se présentant comme le père Ubu, se moquant de lui-même. Il a joué en grand, grand politique, plus quelque chose dont on n'a pas parlé, le verbe gaullien, le discours. C'est un orateur phénoménal. Écoutez encore les discours de guerre. Et ce qu'on en a, le discours de Tammany Hall, ce sont des textes magnifiques. Et il avait une éloquence dans la prestance qui était unique, jusque dans sa gouaille ensuite pour parler. Écoutez, vous vous en souvenez bien. Donc, il y avait le verbe, l'écriture. Ça fait beaucoup pour
et
un personnage.
Et puis les lieux. Alors, les lieux, l'Institut Charles de Gaulle, le musée gaullien de Lille qui est dans la maison de ses grands-parents maternels, la boisserie, la Croix de Lorraine et le nouveau mémorial. Tout ça, ce sont des lieux qui ont une connotation de sacré.
Oui, il n'y a pas de doute. Encore qu'il m'a été très souvent demandé, comme ça, alors qu'est-ce que vous diriez, quels sont les lieux de mémoire gaulliens, gaullistes, le lieu de mémoire. Il n'y en a pas un, il y en a beaucoup. C'est ça qui aussi rend... Il y a le personnage qui est son propre lieu de mémoire, je crois, et il est très significatif, comme le montre très bien Hazard Ising, justement, que Colombey est en perte de vitesse complète. Les organisateurs de Colombey cherchent à revitaliser l'image de Colombey par de nouvelles entreprises, imagerie, attraction. Le mot ne peut être dit pour faire un Disney de Gaulle, si j'ose dire, de Colombey, précisément parce que ces lieux se... Si on me demandait quel est le lieu de mémoire de Gaulle, je dirais la Constitution. Puisque, après tout, c'est celle avec laquelle les Français ont le plus longtemps vécu. Et que même si elle a été profondément amendée, profondément transformée dans ses textes récents et dans sa pratique depuis la cohabitation, il n'empêche que c'est par rapport à ce texte fondateur que ces amendements ou ces corrections de Constitution ont lieu.
C'était ça la valeur de la Constitution, c'est voilà. Le pouvoir est amendé tout en étant encore la matrice.
Eh bien donc, c'est bien une forme de recommencement fondateur, si vous voulez, de cette histoire qui s'inscrit dans les textes constitutionnels et donc dans le régime et qui effectivement fait qu'il y a un avant et un après de Gaulle dans la France moderne, je veux dire.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Au revoir, Pierre Nora.
Au revoir, madame.